cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jodard le 22 mai 1992.
Nous allons continuer cette analyse philosophique au plan de l'éthique religieuse. Nous avons essayé de comprendre comment l'adoration a une répercussion directe sur l'exercice de l'amour d'amitié. On ne regarde pas de la même façon l'ami quand, par l'adoration, on a une certaine harmonie. Je ne dis pas connaturalité, parce que ce ne serait pas vrai, mais harmonie. La connaturalité est au niveau de la charité divine. On ne peut pas être en connaturalité avec le Créateur. On est en harmonie. Il y a un abîme. Et l'adoration nous donne le sens, alors là, de la vraie transcendance. Et depuis le petit caillou jusqu'à Dieu. Parce que Dieu n'est jamais dans le vécu. Et l'adoration nous donne le sens très très fort de cela. C'est pour ça que l'adoration est indispensable pour demeurer dans la vérité. Elle nous met dans la vérité, l'adoration. Parce que ça nous fait comprendre ce que nous sommes en face de Dieu. Nous ne sommes pas une poussière perdue dans l'immensité de la poussière. Comme disait une fois un grand savant, astronome, si c'est merveilleux, astronomie, ça me fait comprendre qu'on est poussière au milieu de toutes les poussières. C'est très angoissant, ça. Ça merveilleux, je veux bien, moi je trouve plus merveilleux, c'est que on est dans l'adoration et que Dieu nous prend au sérieux. C'est extraordinaire. C'est une poussière pensante, hein, dirait Pascal. Transposé en point de vue scientifique. Et c'est vrai, Dieu nous prend au sérieux. Personne ne nous respecte autant que Dieu. Et ça, l'adoration nous donne ce sens-là. Ça ne nous connaturalise pas à l'égard du Créateur, mais ça nous met en harmonie. Ça nous met dans la vérité. Quand j'adore, je suis vrai. Et c'est pour ça que quand on supprime cette adoration qui doit se répéter tout le temps, 7 fois par jour, pour ne pas l'oublier, cette adoration me permet d'être dans la vérité, en harmonie. Tel que je dois l'être. Et ça me donne un respect très grand vis-à-vis de l'ami. Je le respecte beaucoup plus parce que je sais que son âme est créée directement par Dieu. Et que le lien d'amitié ne supprime en rien cette dépendance radicale de mon âme à l'égard de Dieu. L'adoration me donne donc le sens de l'humilité. Je crois que c'est à partir de l'adoration que naît l'humilité. Je ne sais pas si l'humilité peut être une vertu au niveau purement amitié. Il y a le respect, mais pas l'humilité, c'est pas la même chose. Le respect de l'autre, c'est le respect de l'autre. L'humilité, c'est laisser l'autre passer devant, ce qui n'est pas commode. Laisser l'autre passer devant, intérieurement, spirituellement, affectivement. C'est de comprendre que dans l'autre, il y a quelque chose d'unique, que Dieu seul respecte parfaitement. êtes aimée d'un amour unique de Dieu. Et l'adoration donne le sens de l'humilité qui permet de laisser passer devant l'ami et qui me fait découvrir dans l'autre ce que moi je n'ai pas. D'habitude, je découvre dans l'autre ses manques. Oh, il serait charmant celui-là, il serait délicieux, mais... Ah, on sait bien ce qu'on dit. Alors on souligne les manques. L'humilité fait l'inverse. L'humilité met en lumière. C'est pour ça que oui, on est très loin de l'humilité. Hein. Psychologiquement, vous n'avez pas une psychologie d'humble. Ça, j'en suis sûr que non. Vous avez une psychologie d'orgueilleux. Et on l'a tous. Hein. Ça, c'est l'œcuménisme psychologique. On est tous dans cet orgueil. On baigne, parce que c'est comme naturel. On est né avec cette conséquence du péché originel. Et l'humilité, c'est une conquête vis-à-vis de cette tentation permanente d'orgueil. C'est poussé d'orgueil, vous voyez. Dès qu'on éveille un peu son intelligence. Alors quelquefois aussi, le bon moyen de rester humble, c'est de supprimer l'intelligence. Très bonne intention, mais très mauvais résultat. Parce que c'est effrayant. On n'est pas humble quand on est bête. Il ne faut pas identifier humilité et bêtise, hein, surtout pas. L'humilité est une vertu qui implique l'intelligence et qui fait que on voit les qualités de l'autre. C'est pour ça que je crois bien, ce serait du reste très intéressant à étudier ça au point de vue philosophique. Ça n'a pas été étudié, vous voyez. Je ne vois pas très bien une thèse en Sorbonne de la naissance de l'humilité à partir de l'adoration. Et pourtant, ce serait ça qu'il faut mettre, de la naissance de l'humilité à partir de l'adoration. On est devant un monde qui n'est pas humble du tout. La psychologie des groupes, c'est la psychologie des requins qui essaie de se manger mutuellement, et c'est le plus puissant qui l'emporte sur l'autre. Et l'humilité est très souvent caricaturée par une sorte de complexe d'infériorité. C'est sûr que le complexe d'infériorité n'est pas l'humilité, ça c'est évident. Le complexe d'intimité, de la timidité qu'on peut avoir, c'est pas du tout, c'est souvent au contraire un petit peu à cause de l'orgueil. On ne veut pas paraître tel qu'on est. Alors on fait on fait de la mousse pour qu'on se cache derrière. On dit n'importe quoi pour ne pas être face à sa nudité, sa fragilité. Je crois que l'humilité naît à partir de ce moment où on a découvert la transcendance du Créateur. Alors à ce moment-là, on voit le regard de Dieu sur l'ami. Et je prends l'ami parce que c'est lui qu'on connaît le mieux. Et à partir de là, on voit le regard de Dieu sur tous ceux qui sont sur ma route. Et l'humilité donne ce sens-là. Et puis nous avions vu comment l'obéissance pouvait naître dans une philosophie politique, familial, à un niveau purement humain, mais que l'autorité n'était vraiment pleinement elle-même qu'au niveau religieux. C'est un fait, du reste, que dès que l'attitude religieuse disparaît, l'autorité tend à disparaître et elle est remplacée par le pouvoir. Cette confusion entre pouvoir et autorité, c'est à cause d'une laïcisation. Je crois. Ça aussi serait très intéressant à creuser, historiquement. Avec Occam. Quand l'adoration et le sens religieux disparaissent, je crois que l'autorité disparaît. Il y a quelque chose de sacré dans l'autorité. C'est pour ça que c'est toujours très impressionnant. Et c'est tellement impressionnant que ça crée des complexes et qu'on rejette toute espèce d'autorité parce qu'on en a peur. Il y a le tremendum. Alors, le tremendum de l'adoration du sacré permet d'accepter l'autorité humaine. Mais quand il n'y a pas cette saisie de l'autorité au plan sacré, par l'adoration, vous voyez, au fond, il y a toujours un petit aspect mythique sur l'autorité. L'autorité du pater familias, par exemple, chez les Romains. Cette autorité du pater familias, elle est fausse. Le père avait le droit de tuer son enfant. S'il le trouvait difforme et trop bête et pas assez digne du père, parce que c'est le père qui était la référence. C'est évident, c'est une autorité que Dieu seul a. L'autorité sur la vie. On voit très bien comment ça s'enfle dès qu'il n'y a plus l'aspect religieux. Ou un aspect religieux faux qui tombe dans les superstitions et qui est une adoration des idoles. Parce qu'au fond, ce serait à voir au terme, si on a le temps, que si on supprime l'adoration, si on supprime l'adoration et la dimension religieuse au point de vue éthique, il y a un refoulement de la véritable dimension religieuse. Qui se retrouvent dans un tas de choses difformes qui sont la superstition. Je crois qu'un monde laïque est superstitieux. Parce que on ne peut pas tuer, on ne peut pas supprimer le sens religieux. On ne peut pas le supprimer. Alors si on ne l'éduque pas, et qu'on le refoule, il va réapparaître de 36 manières difformes. Et ce serait intéressant de voir toutes ces manières difformes dans une communauté comme la nôtre, où on sent des choses qui ne sont plus justes, qui ne sont pas justes, et qui, le scrupule par exemple, le scrupule peut être source d'angoisse. Et le scrupule est une forme de l'attitude religieuse qui n'a pas été éduquée. Alors qui part dans des sens divers, qui devient une maladie et qui peut être terrible. Donc il faut noter ça. On ne le développe pas tout de suite maintenant, mais il faut noter ça et vous-même chercher dans ce sens-là. Parce que ça c'est très intéressant. Vous voyez, ça nous aide au point de vue philosophique de voir comment. Si on supprime et si on n'éduque plus le sens religieux, si on l'arrête, il y a un refoulement. Et ce refoulement va sortir de multiples manières. Vous voyez, ces sectes démoniaques, c'est net. Toutes ces religions qui ne sont pas vraies, qui sont amputées, c'est une conséquence, un refoulement d'un sentiment religieux. L'âme a besoin de religion. Alors s'il n'a pas la vraie, il s'en fabrique. Il s'en fabrique de multiples manières. Et je crois que tout ce, vous voyez, ces affirmations qu'on dit, par exemple, ces émissions qui se font sur tous les sorciers qui sont autour de Paris, des émissions qui se font régulièrement avec beaucoup de respect. Du reste, on n'est pas très respectueux vis-à-vis des choses chrétiennes et catholiques, mais vis-à-vis de tout ça, on est très respectueux. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai un de mes amis qui a suivi ça qui m'a dit, ce qui m'a étonné le plus, c'est le respect avec lequel tout ça a été entouré. leur montrer que, ben oui, c'est un mensonge. Et donc on trompe les gens. Et on gagne beaucoup d'argent. C'est pas étonnant. Tandis que dans la vraie religion, on en gagne moins. Alors, vis-à-vis de l'efficacité, on voit très bien que c'est quelque chose qui... Et toutes ces sectes sont des refoulements religieux. L'homme a besoin de se retrouver avec des d'autres qui essaient d'invoquer les puissances. Et dans toutes ces sectes, on voit très très bien le refoulement religieux. Ça, c'est important à le saisir au point de vue philosophique. Parce que ça nous aide à mieux saisir le vrai sens religieux. Il ne faut pas trop s'attarder, c'est évident. C'est pas ça qui va nous faire comprendre l'éthique religieuse. Mais une éthique religieuse qui est bafouée est source, occasion de tous ces refoulements et de toutes ces sectes. Alors, après avoir vu ce lien entre le point de vue de l'adoration et l'autorité et l'obéissance, regardons comment l'adoration transforme la justice. Alors, toujours quand je dis transforme, comprenez bien, ce n'est pas une transformation substantielle de l'objet de justice, exactement comme pour l'amitié. C'est une transformation de l'exercice. Mais quand on a une philosophie qui n'est pas réaliste et qui est celle du vécu, on ne peut pas distinguer une transformation du vécu, de l'exercice, avec une transformation objective. Ça, c'est aussi très important, bien saisir. Autrement dit, une philosophie qui est phénoménologique ne permet pas de distinguer la transformation qui se fait du côté de l'exercice et la transformation qui se fait du côté de l'objet. Or, quand il y a transformation du côté de l'exercice, et si on est dans une philosophie du vécu, on dira que cette transformation est une transformation qui va jusqu'à l'objet. Alors, on est là dans des perspectives qui ne sont plus justes. Dire que l'adoration, la véritable adoration à l'égard du vrai Dieu, change l'objet de la justice. C'est pas juste. Il n'y a pas une justice religieuse. Vous savez bien, quelquefois on voudrait bien, je tire un chapelet pour vous, alors j'ai pas besoin de vous payer. Celui qui vend peut dire ça, mais pas celui qui achète. C'était l'histoire avec le père Emmanuel. Quand il cherchait, il avait transformé ses ermitages avec des briques. Il les faisait d'abord en bois, mais comme ça, brûlait. Son supérieur, son abbé, dans le calca, lui a dit, vous devez faire des ermitages en briques. Mais les briques, il fallait les acheter. Alors, il a découvert une briqueterie, pas très loin. Puis, il a demandé que toutes les choses mauvaises, qu'on ne peut pas vendre, on les mette à côté, qui irait les chercher. Puis un beau jour, ils voient un camion énorme qui arrive avec une remorque énorme, des très belles briques. Elle a dit, mais je ne sais pas commander ça. Ah, oh, moi je ne sais pas, j'exécute. Puis alors, il a fait le déchargement, et puis après le déchargement, l'autre a dit, je suis protestant. Vous ne saviez pas quand vous êtes venu, je suis protestant. Alors, c'est pour vous tout ça. Vous direz un chapelet pour moi. Alors vous voyez ça, c'est la transformation substantielle de la justice grâce à l'esprit. Ça peut se faire du côté de celui qui vend, mais pas de celui qui achète. Le père Emmanuel n'aurait pas pu dire, écoutez, je suis catholique, donc je suis pauvre. Alors donnez-moi vos briques, vous devez me les donner, parce que je suis pauvre. À côté. Alors, je suis le pauvre évangélique qui reçoit les miettes. Il avait demandé les miettes. Et puis on lui donne le pain. De belles briques. Il ne pouvait pas dire changer ça. Et donc, je prends cet exemple parce que c'est très significatif, on comprend tout de suite. Tandis que quand vous placez au point de vue philosophique, vous comprenez moins bien comment De fait, l'exercice peut être changé, mais pas l'objet. Et ça arrive, il y a des gens pieux qui n'ont plus aucun sens de la justice. Contamination. Et ça, c'est très grave. Il y a des religieux qui n'ont plus le sens de la justice. Ils sont des spécialistes de la vertu de religion, je n'en doute pas. Donc, ils sont des spécialistes de la vertu de religion, ça. Merveilleux au point de vue culte, au point de vue adoration, au point de vue... Mais il y a un empiètement qui n'est pas juste. La vertu de religion est une vertu universelle qui peut transformer toute la vie de l'homme. C'est très vrai. Mais attention, elle ne transforme pas la nature de l'homme. Et ce qui est vrai de la vertu de religion est vrai d'une autre manière, de la charité. La grâce ne présuppose sa nature, mais ne la détruit pas. Or, la justice est au niveau de la nature. On ne peut pas comprendre ce que c'est que la justice si on ne voit pas ce que c'est que la nature humaine. Il n'y a pas d'éthique de la justice. J'en ai en face d'une éthique soi-disant purement personnaliste, donc purement individualiste. On est devant une éthique de la situation. Or, la justice n'est pas une éthique de la situation. C'est justement, elle est au-dessus, parce qu'elle relève sur les droits de la nature. Chacun d'entre nous, nous avons des droits du fait qu'on a la nature humaine, le droit à la vie. Pourquoi on ne respecte plus le droit à la vie? Parce qu'on ne voit plus la nature. On ne voit que la personne. On dit le tout petit enfant, c'est pas une personne, il n'y a pas de droit. Donc on peut le supprimer. Et la nature est quelque chose de plus radical et de plus fondamental que la personne. On a un droit à la vie. Tout être humain a un droit à la vie. À la vie et à la croissance de la vie. Et donc il a le droit à la nourriture. Il a le droit à un milieu vital qui lui permet de vivre. La vertu de religion ne transforme pas la nature humaine, mais elle permet à la nature humaine d'être dans une situation juste à l'égard de Dieu. Et que cette situation juste à l'égard de Dieu, c'est la situation de la partie à l'égard du tout, et qui prend tout par le fait même. Et donc, c'est très vrai de dire que j'exerce différemment la vertu de justice. Si je suis un homme religieux, si j'ai découvert que Dieu est mon créateur, je découvre que ma nature humaine est un reflet de la sagesse de Dieu, que Dieu a pensé la nature humaine. Et si Dieu a pensé la nature humaine, il y a un droit naturel. Et je crois que le droit naturel ne peut être explicité que dans une éthique religieuse. Là aussi, ce serait très intéressant à bien voir ça. Je crois que c'est très très difficile, il me semble, de maintenir le droit naturel, bien qu'on en parle beaucoup. C'est comme toujours, quand les choses disparaissent, on en parle beaucoup, en croyant que parlant les remplace par la parole. Quand les choses sont vécues, on n'en parle pas, parce que c'est du vécu. C'est vécu profondément. Tandis que quand on n'en parle pas, on en parle beaucoup, on parle énormément, je vais t'en parler de droit naturel. Parce que, justement, je crois qu'une éthique purement laïque qui refuse et qui rejette le point de vue religieux peut très difficilement fonder le droit naturel. Le droit naturel, vous voyez, le droit à la vie, le droit au développement, ce que nous avons reçu radicalement dans notre nature humaine, demande de se développer, demande d'aller le plus loin possible. Alors que si vous avez une éthique religieuse, voyez que notre âme est créée par Dieu. Et voyez que notre nature humaine est l'œuvre de la sagesse de Dieu. Et donc notre nature humaine a une intention profonde, sacrée, d'un développement vers l'épanouissement le plus parfait de nous-mêmes, une certaine béatitude. Et que pour atteindre cette béatitude, et en raison de cette béatitude, il y a des droits. On a le droit à la vérité. On a le droit de lutter contre les erreurs. Il y a un droit et un devoir. Alors, ce droit naturel, fondamental, ne peut se comprendre que dans la lumière de la sagesse de Dieu. Profondément, explicitement. Les droits de l'homme, tels qu'on les a donnés à partir de la Révolution, on a voulu les fonder sur une morale purement laïque. Et on voit que ça s'écroule. Parce que les droits de l'homme ne peuvent être vécus. Ils existent fondamentalement dès qu'il y a la nature humaine. Mais il faut voir l'explicitation et donc l'exercice. Et je crois que cela, il ne peut se faire qu'à travers une éthique religieuse qui respecte la nature humaine parce qu'elle est pensée par Dieu. C'est un problème très très important, cela, et qui revient aujourd'hui avec beaucoup de force. Je ne sais pas combien de fois on vous pose le problème, surtout quand on est avec des juristes qui veulent comprendre, qui veulent essayer de saisir cela, et on comprend que c'est une chose capitale. Peut-il y avoir encore une vraie société, une vraie communauté politique? Si on n'a pas des droits naturels qui sont explicités, tout devient conventionnel. Tout devient conventionnel. Alors quand tout devient conventionnel, il n'y a plus de fondement. On ne bâtit plus sur le roc. On bâtit sur les conventions. Donc c'est momentané. C'est pour ce temps-là. Mais ça va très loin, vous savez. J'ai vu et des jeunes qui, pourtant, étaient entrés en vie religieuse, c'est pas ici que ça s'est passé, et qui disaient que l'amitié humaine était conventionnelle. Alors qu'il y a un fondement naturel. Que la justice était conventionnelle. Et purement conventionnelle. Ne reposez pas du tout sur un fondement naturel. Il n'y a plus de nature. Et c'est vrai, avec Occam, il n'y a plus de nature, donc il n'y a plus de finalité. Et s'il n'y a plus de finalité, il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de droit naturel. Le droit naturel ne peut se comprendre qu'en fonction de la finalité. Et s'il n'y a plus de finalité, tous les droits deviennent conventionnels et subjectifs. Alors on a une morale subjective de la situation, on a un droit purement subjectif, qui n'a plus son fondement dans la nature. Alors là, vous voyez, il y a un problème. Comment on peut souligner au plan philosophique? Parce que si on voulait le traiter parfaitement, il faudrait la philosophie politique. C'est en philosophie politique qu'on doit traiter cette question de savoir ce que représentent les droits naturels et à quel moment le droit naturel s'explicite. Et autrement dit, la petite enquête qu'on a faite à propos de l'autorité, il faudrait le refaire au point de vue du droit naturel. C'est pas commode. Et là-dedans, il y a des tas de choses qui sont assez fausses. Parce que très souvent, on fait reposer ça un peu sur les traditions. C'est pas suffisant. Il faut découvrir la nature humaine dans la lumière de la sagesse de Dieu. Et c'est pas une question de foi, c'est une question philosophique. Puisque la philosophie peut découvrir et doit découvrir l'existence du Dieu créateur. Parce que pour certains, c'est une question de foi. Mais non, c'est pas une question de foi. L'intelligence humaine peut découvrir cela, et elle doit le découvrir. Elle doit découvrir qu'elle a en elle la possibilité de découvrir que l'homme est fait pour Dieu. Et que tant que l'homme n'est pas orienté vers Dieu, parce que sa nature est spirituelle, il néglige la partie essentielle de son être, une partie radicale de son être. Donc, notez bien cela. Le droit naturel repose sur la nature, mais l'exercice du droit naturel repose sur la finalité.
À quel moment dans la démarche philosophique on découvre la nature humaine ?
Ah, la nature humaine, elle est découverte au point de vue. En éthique, dès que vous découvrez une finalité, vous découvrez la nature. Mais formellement, vous découvrez la nature humaine en philosophie du vivant. C'est la philosophie du vivant qui montre l'âme et le corps. Or, qu'est-ce que c'est que la nature humaine ? C'est l'âme et le corps. Oui. Distinct de la personne. C'est en philosophie du vivant que vous explicitez le mieux, mais en éthique, puisque l'éthique est dépendante de la métaphysique et de toute la philosophie spéculative. Vous découvrez la nature humaine déjà au niveau de l'amour d'amitié. Et vous dites que l'amour d'amitié est naturel. C'est le physikos, ce qui est naturel, ce qui se fait naturellement et non pas conventionnellement. Qui est une distinction capitale. Et qui est une distinction importante au plan philosophique. Alors, évidemment, vous voyez, il y a des moments où ça s'explicite plus. Mais l'explicitation de la nature humaine doit se faire en philosophie du vivant, d'abord. Elle est découverte, elle est exigée en éthique. Tout de suite. Dès la philosophie éthique de l'amour d'amitié. Elle va s'expliciter en éthique religieuse, en montrant le droit, les droits naturels de l'homme, et en politique. Vous poserez la question, y a-t-il une politique religieuse ? Ça, si on a le temps, là, on se la posera au terme. Et oui, mais ça touche tout de suite. La politique maintient la justice. Quel est le fondement de la politique ? C'est toujours la justice. C'est pas la miséricorde. C'est l'erreur d'Abbé Pierre, ça. De dire qu'une loi doit être faite pour le plus misérable. Ah, vous comprenez ? Si la loi est faite pour le plus misérable, c'est plus une loi, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est un dépassement de la loi. La loi se fait au niveau de la nature et au niveau de la justice. La loi est faite pour respecter la justice et les droits de l'homme. La loi, comme elle est faite aujourd'hui, vous savez, pour légitimer une situation de fait. Alors on fait voter le public pour savoir si cette telle loi doit être acceptée, pour savoir l'opinion des gens, l'éthique, la bioéthique, c'est ça. Donc c'est conventionnel, c'est plus du tout philosophique, c'est conventionnel. Est-ce qu'on pourra dire ça sans qu'il y ait révolution ? Mais c'est pas la question. Parce que si vous êtes dans un royaume d'aveugles ou un royaume de borgnes, alors vous ne ferez pas plus. Borgnes, spirituellement, qui ne voient pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. C'est pas une question de fait, la loi. C'est saisir la finalité de la nature humaine et les droits de la nature humaine. Et on explicite ces droits dans une loi positive pour qu'on puisse mieux comprendre ce qu'on doit faire. Et on en a besoin. Oui. Donc, la répercussion de la justice en politique, c'est tout de suite la loi. Parce que je ne parle pas de loi en éthique personnelle. Mais je vois les fondements de la loi. Les fondements de la loi, c'est la justice. Pour maintenir la justice. une justice commutative, une justice distributive, une justice légale. Tout de suite, dès que vous avez la justice, vous parlez de justice légale. Oui. Vous ne pouvez pas parler de la justice sans parler de la justice légale. C'est extraordinaire. Tandis que vous ne parlez pas d'une tempérance légale. L'État va décider combien de petits pains vous pouvez manger le matin, combien de pots de confiture vous pouvez prendre en dehors du carême, et ainsi de suite. Vous voyez, l'État ne dit pas ça. Il n'y a pas de tempérance légale. Il y a une tempérance individuelle. Il n'y a pas de force, la vertu de force, au point de vue légal, tandis qu'il y a une justice légale. Mais la justice poussée à l'extrême, du moins jusqu'au bout, implique la justice légale. La vertu de justice implique cette note-là. Pourquoi ? Parce qu'elle est la relation à l'égard d'un autre. Et elle respecte le droit de l'autre, le ius de l'autre. C'est ça le propre de la justice. Alors, qu'est-ce que c'est que ce ius, ce droit ? C'est là toute la difficulté. Et toute la difficulté au plan, justement, philosophique. Qu'est-ce que c'est que le droit ? Puisque la justice se définit par le droit. Donc tant que je n'ai pas saisi ce que c'était que le droit, je ne sais pas ce que c'est que la justice. Et c'est ce qui arrive très facilement, c'est que comme c'est difficile de voir ce que c'est que le droit naturel, le ius, on tombe très vite dans une sorte de justice légale. Tant que vous n'êtes pas pris par la loi, c'est bien. C'est moralement bon. Dites pas que c'est moralement bon. Dites que vous êtes un type astucieux, passé à travers les mailles, mais vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un de bon. Parce que la justice ne se définit pas par la loi. C'est la loi qui se définit par la justice. La loi fait respecter la justice. La loi précise la justice. Mais c'est la justice qui s'enracine dans la nature humaine. Alors le ius, respectez le ius. Le ius naît à partir de la finalité. Est-ce qu'un animal a un droit ? Ça, c'est pour les protecteurs des animaux. Il faut se poser la question. Je comprends très bien la société de protection des animaux, des chiens pour qu'ils ne crèvent pas, des abeilles pour qu'elles ne meurent pas. Protection des animaux. Parce que j'ai vu l'autre jour quelqu'un comme ça qui est très intéressant parce qu'il aime les animaux follement. Directeur d'un zoo, d'un petit zoo, mais un type très calé. Il m'a dit le nombre d'espèces d'animaux qui disparaissaient par chaque année. C'est extraordinaire, on ne croirait jamais ça. Puis, je ne dis pas que le monde s'affine, il diminue le nombre d'espèces d'animaux. À cause de la pollution, à cause du climat. Alors, y a-t-il un droit pour protéger l'animal ? Et quel est le droit de l'homme ? Le droit de l'homme, c'est à cause de la finalité. La nature humaine est finalisée et elle réclame le bonheur. Et on a un droit à partir de là pour atteindre ce bonheur. Tout ce qui est en vue de ce bonheur me donne un droit. Et tout ce qui est contraire à ce bonheur me montre que mes droits sont lésés. Alors, comme l'animal, au sens strict, n'a comme finalité que la survie de l'espèce. Alors la société protectrice des animaux devrait être uniquement pour permettre que les espèces animales demeurent aussi nombreuses qu'elles sont le jour de la création.